אנחנו קוראים בספר תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק א', דף חף א'.
Bonjour, nous lisons à partir de l'étude des 10 séphirot, le volume 1, le partie 1, l'Istaklut Pnimit du chapitre 1. Nous commençons à l'article 20. Parce que le désir de recevoir n'est pas dans notre racine, nous ressentons la honte et l'impatience. Les sages ont dit que pour corriger cela, il nous a préparé en ce monde le labeur dans la Torah et les mitzvot pour transformer le désir de recevoir en désir de donner. Vous pouvez poser des questions sur n'importe quoi, dit Rav, à partir du moment où vous sentez qu'il y a une question qui pourrait nous aider tous, posez-la. Alors, répétez encore l'en-tête de l'article 20. Parce que le désir de recevoir n'est pas dans notre racine, nous ressentons la honte et l'impatience. Les sages ont dit que pour corriger cela, il nous a préparé en ce monde le labeur dans la Torah et les mitzvot pour transformer le désir de recevoir en désir de donner.
Allez-y, dit Rav.
Il est clair relativement ce qui précède que toutes les formes qui nous viennent indirectement du Créateur sont contraires à notre nature et difficiles à soutenir. Ainsi, vous pouvez comprendre que la nouvelle forme qui apparaît chez celui qui reçoit, c'est-à-dire le désir de plaisir, n'est en aucun cas un défaut dans la valeur du Créateur, mais au contraire, il s'agit de l'axe principal de sa création. Sans cela, il n'y aurait pas eu de création du tout. Celui qui reçoit, qui porte cette forme, ressent la difficulté de la supporter de lui-même, parce que cette forme n'existe pas dans sa racine. Ainsi, on peut comprendre la réponse des sages que ce monde est créé parce que celui qui mange ce qui n'est pas à lui a peur de regarder en face. Vous comprenez, demande Rav? Peut-être que tu devrais relire. Il est clair relativement ce qui précède que toutes les formes qui nous viennent indirectement du Créateur sont contraires à notre nature et difficiles à soutenir. Ainsi, vous pouvez comprendre que la nouvelle forme qui apparaît chez celui qui reçoit, c'est-à-dire le désir de plaisir, n'est en aucun cas un défaut dans la valeur du Créateur. Mais au contraire, il s'agit de l'axe principal de sa création. Sans cela, il n'y aurait pas eu de création du tout. Celui qui reçoit, qui porte cette forme, ressent la difficulté de la supporter de lui-même, parce que cette forme n'existe pas dans sa racine. Est-ce que ça va? C'est clair? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Demande Rav. Alors je vais vous l'expliquer. Chaque désir de recevoir, chaque désir qui s'éveille en nous, il faut faire quelque chose à ce propos. Il faut le remplir avec quelque chose, le satisfaire ou changer quelque chose en lui. C'est ce que nous appelons une impatience. Il nous faut calmer ce désir. Je ne peux pas être dans cette tranquillité infinie comme le Créateur, mais en moi, quand le désir de recevoir s'éveille, ça me secoue, ça m'envoie dans toutes les directions jusqu'à ce que je le satisfasse. Et là, il se tranquillise et je peux aussi être dans un état de tranquillité comme le Créateur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le désir de recevoir s'éveille, nous perdons notre équilibre et nous courons dans toutes les directions simplement pour le satisfaire et puis nous reposer. N'est-ce pas? Il n'y a pas d'autres questions. Alors, c'est considéré que nous ressentons l'impatience. Pourquoi il est écrit que le désir de recevoir ne vient pas de la racine, que c'est la racine, non? Notre racine est le Créateur, parce que dans le Créateur, il n'y a pas de désir de recevoir, mais seulement le désir de donner. C'est pourquoi lorsque le désir de recevoir s'éveille en nous, nous ressentons une poussée vers le mouvement pour le ressentir, pour le calmer et puis nous tranquilliser. Et tout cela, parce que ce n'est pas dans le Créateur. Alors, il s'avère que jusqu'à ce que nous en venions à cette forme, comme le Créateur, il nous manque de mouvement et constamment, nous voulons nous changer nous-mêmes. Nous ne sentons pas une patience ou un état de tranquillité, rien. Vous voyez, tout le monde, ils sont tous en train de courir partout, et qu'est-ce qui se passe, c'est parce que nous ne sommes pas en équilibre avec le Créateur, en équivalence de forme, dans un état de tranquillité. Et c'est pourquoi nous sommes dans le mouvement et qu'il nous manque du repos. Nous ne connaissons pas le repos. C'est-à-dire que nous courons après la nourriture, le sexe, la famille, les honneurs, l'argent, et et c'est comme ça pour des tonnes de gens. Mais c'est que nous tous ensemble, nous sommes dans ce mouvement en raison du manque d'équivalence de forme avec le Créateur. Et c'est ça la raison. Et il y a l'existence à partir de l'absence, mais de quelle existence à partir de l'absence tu parles? Mais ça, est-ce que c'est la racine? Notre racine, dit Rav, c'est l'existence qui vient de l'absence. Ça vient du Créateur et c'est pourquoi nous ressentons l'impatience. Et c'est ce qu'il nous explique ici. Ah, réfléchis-y un peu plus. Hein? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Oui, Shlomo? Il écrit à propos du désir de recevoir comme si c'était une nouvelle forme, Tsura. Mais qu'est-ce qu'il y avait auparavant? Il y avait l'équivalence de forme avec la lumière. Est-ce que la créature s'en réjouissait, le Kli, dans cet état? Le désir de recevoir était en équivalence avec la lumière et suivant l'équivalence de forme, et il était au repos comme la lumière, dit Rav, à l'état de repos absolu. Et là, lorsque l'acte de la brisure est arrivé et qu'il s'est distancé de la lumière, dans la mesure où il s'est éloigné de la lumière, il a ressenti l'impatience, un manque de repos. Lorsqu'il a essayé de se compléter dans l'action et le mouvement, alors tu dis que le nouveau désir de recevoir, il veut toujours du plaisir. Oui, alors c'est une nouvelle forme. Qu'est-ce qu'il y avait avant ce repos complet? C'était aussi le désir de se réjouir. Et de quoi se réjouissait-il? Mais ça, c'était avant la brisure, dit Rav. Il se réjouissait d'être incorporé dans la forme du don. La forme du don est dans le Créateur et par conséquent, il était à l'état de repos. Mais il n'y avait pas de conscience, il n'y avait pas d'adhésion véritable, qu'une conscience. Là, ce n'est pas important, il est en équivalence et c'est tout. Et peu importe que tu sois une mouche ou un homme ou quoi que ce soit, tu t'identifies avec le Créateur et peu importe de quelle façon, et dans cette mesure, tu ressens le repos. Et qu'y a-t-il avec toi, là? Ah, mais c'est une façon naturelle, non? Qui s'éveille chez une personne, et là, elle doit courir pour se satisfaire. Mais il nous dit ici que c'est une loi, dit Rav, la loi de l'équivalence de forme. Et si nous ne sommes pas en équivalence, pas une équivalence de désir, mais de forme, parce que le désir, lui, je n'aurai jamais la possibilité d'avoir un désir de donner, sinon avec l'intention d'avoir la forme du don. Et dans cet état, je serai comme le Créateur au repos. Mais que me faut-il faire si quelqu'un, il y a ses désirs qui s'éveillent et là, on ne peut pas avoir de repos? Mais il nous faut comprendre d'où ça vient, dit Rav. Et ça vient en raison d'une disparité de forme avec le Créateur. Alors essaie, dans toutes les actions que tu fais, de t'amener à l'équivalence. Et ça, ça se fait à travers la dizaine, à travers les études. Mais disons qu'il y a un désir que je ne peux pas stabiliser, comme dans l'exemple. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je peux faire dans cette situation? Mais il y a le libre choix, dit Rav, tu fais ce que tu veux. Pour calmer ton désir, qui ne s'identifie pas au Créateur, ça, ça ne peut se faire qu'à travers la correction vis-à-vis de celui-ci. Et la correction, c'est qu'il devienne avec l'intention afin de donner, qu'il en vienne à l'identification et à l'état de repos. Alors ça, je ne veux plus maintenant, c'est ça ma correction? Tu veux à cet endroit, mais plutôt que de demeurer dans la réception, tu veux être dans le don, dit Rav. Et ainsi, on peut comprendre la réponse des sages que ce monde est créé parce que celui qui mange ce qui n'est pas à lui a peur de regarder en face. C'est apparemment étonnant, mais maintenant, nous comprenons qu'il parle de la disparité de forme du désir de plaisir qui se trouve nécessairement dans les âmes parce que celui qui mange ce qui n'est pas à lui a peur de regarder en face. Autrement dit, celui qui reçoit un cadeau ressent de la honte lors de la réception à cause de la disparité de forme avec la racine qui ne contient pas cette forme de réception. Donc, afin de corriger cela, il créa ce monde où l'âme se revêt dans le corps et grâce à l'engagement dans la Torah et les mitzvot, dans le but de faire plaisir au Créateur, les récipients de réception de l'âme s'inversent en récipients de dons. C'est-à-dire que pour sa part, elle n'aspire pas à l'abondance, mais elle la reçoit dans le but de faire plaisir au Créateur, qui veut que les âmes jouissent de son abondance. Du fait qu'elle soit lavée de tout désir de recevoir pour elle-même, l'âme n'a plus peur de regarder en face, et ainsi se révèle la perfection de la créature, la nécessité et le besoin du long enchaînement jusqu'à ce monde, que ce grand travail de transformation de la forme de réception en forme de don ne peut se faire que dans ce monde-ci, seront expliqués plus loin. Oui, spécialement dans le monde dans lequel nous nous trouvons, même dans ce monde, dans notre état, ici, il faut faire l'essentiel du travail spirituel, et là, un rythme se met en place et nous cheminons d'un degré à l'autre. Mais tout le travail que nous faisons ici est très précieux, parce qu'il se fait en déconnexion avec le Créateur. Alors, y a-t-il des questions? Rav, c'est quoi ce récipient de réception-là? Le désir de recevoir avec l'intention afin de donner. Alors, ce n'est pas le corps du Ratson en général dont nous parlons, mais que veux-tu dire par le corps? Mais un désir. Mais aussi, qu'est-ce que tu demandes? Moi, j'ai dit désir. Mais à propos de l'âme? Alors, d'aneshama, de l'âme. Alors, qu'est-ce que l'âme? L'âme, c'est le désir de recevoir qui est corrigé avec l'intention afin de donner. Et c'est ce que nous appelons une neshama, une âme. Le désir de recevoir lui-même est le corps et la correction qui s'effectue sur lui est afin de donner. Et par conséquent, tout ensemble, ce désir s'appelle Neshama. Et pourquoi est-ce que nous l'appelons Neshama? Parce que spécialement, nous en venons à la correction de Nefesh, Ruah, Neshama, ces trois degrés, et Aya, Yechida, à la fin de la correction, ne sont que sur nous en Ormakif. Et alors, jusqu'à la fin de la correction. Et le maximum que nous pouvons atteindre jusqu'à la fin de la correction, ce sont les trois premiers degrés de Nefesh, Ruach et Neshama. Et là, à la place de cette Neshama, de l'âme, nous allons appeler cette structure Yachida. Et c'est tout. Continuons. Article 21. La destruction des méchants est double et les justes hériteront du double. Viens et vois que les méchants, leur destruction est double, car ils tiennent la corde par les deux extrémités. Ce monde a été créé avec un manque et un vide de toute abondance. Et pour acquérir des possessions, on a besoin de mouvements. Et on sait que la multiplication des mouvements est pénible pour l'homme, car cela ne provient pas directement de l'essence du Créateur. Cependant, demeurer dépourvu de possessions et de biens est également impossible, car cela aussi est opposé à la racine étant remplie de biens. C'est pour cela que l'on préfère la souffrance associée au mouvement, afin d'acquérir toutes ses possessions. Mais puisque toutes ses possessions ne sont que pour lui-même, et que celui qui a 100 en veut 200, l'homme meurt sans avoir atteint la moitié de ses désirs. On souffre donc des deux côtés, de la peine causée par les nombreux mouvements effectués et de la peine du manque de possession, car il nous en manque la moitié. Les justes dans leur pays hériteront du double. Une fois qu'ils auront transformé leur désir de recevoir en désir de donner et qu'ils recevront ce qu'ils reçoivent dans le but de donner, alors ils hériteront du double. Car non seulement ils atteindront le comble du plaisir et le choix des possessions, ils atteindront en plus l'équivalence de forme avec leur Créateur. Ainsi, ils se trouveront dans la vraie dvekut, l'adhésion, et aussi dans le secret du repos, car l'abondance leur viendra d'elle-même, sans effort ni mouvement. Des questions, demande Rav? Vous savez, oui, il te faudra lire deux fois ce que je peux voir, sinon ça ne sera pas absorbé. Alors, s'il vous plaît, prête attention. La destruction des méchants est double et les justes hériteront du double. Alors, le méchant perd deux fois et le juste, lui, est récompensé deux fois, dit Rav. Viens et vois que les méchants, leur destruction est double, car ils tiennent la corde par les deux extrémités. Ce monde a été créé avec un manque et un vide de toute abondance. Et pour acquérir des possessions, on a besoin de mouvements. Et on sait que la multiplication des mouvements est pénible pour l'homme, car cela ne provient pas directement de l'essence du Créateur. Cependant, demeurer dépourvu de possessions et de biens est également impossible, car cela est aussi opposé à la racine étant remplie de biens. C'est pour cela que l'on préfère la souffrance associée au mouvement, afin d'acquérir toutes ses possessions. Mais puisque toutes ses possessions ne sont que pour lui-même, et que celui qui a 100 en veut 200, l'homme meurt sans avoir atteint la moitié de ses désirs. On souffre donc des deux côtés, de la peine causée par les nombreux mouvements effectués et de la peine du manque de possession, car il nous en manque la moitié. Les justes dans leur pays hériteront du double, une fois qu'ils auront transformé leur désir de recevoir en désir de donner et qu'ils recevront ce qu'ils reçoivent dans le but de donner, alors ils hériteront du double. Car non seulement ils atteindront le comble du plaisir et le choix des possessions, ils atteindront en plus l'équivalence de forme avec leur Créateur. Ainsi, ils se trouveront dans la vraie dvekut et aussi dans le secret du repos, car l'abondance leur viendra d'elle-même, sans effort ni mouvement.
« לא, לא כך הבנתי. זאת אומרת, אם אני, מה שקוראים פה רשע, אז אני מנסה למלא את עצמי.
Je ne comprends pas vraiment ce que je lis ici. Alors, les méchants essaient de se satisfaire, et ça, c'est un désir de recevoir, et là, ils s'accroient deux fois, et je veux toujours continuer de le satisfaire, et je ne le satisfais jamais. Oui, tu ne fais toujours que courir, dit Rav, et tu demeures dans cet état tout le temps, et une personne meurt avec la moitié de ses désirs qui ne sont pas satisfaits. Mais c'est quoi les justes et le travail afin de donner, mais il n'explique pas c'est quoi le don aux justes. Ils reçoivent le remplissage dans leur kélim, dit Rav, et aussi le mérite, l'adhésion au Créateur. Alors tu perds le remplissage lui-même et tu perds ce que tu méritais de la connexion avec le Créateur, de cette façon-ci, de cette façon-là. Et il y a une double perte et un double gain. Mais le désir, lui, il ne s'accroît pas du double. Mais c'est clair que le désir s'accroît toujours. Mais aussi chez les désirs, les justes aussi, le désir s'accroît. Les justes et les méchants, ça peut être la même personne, une fois dans cette forme et une fois dans cette forme-là. D'accord, mais je ne comprends pas. Avec le méchant qui ne cesse de pourchasser ses désirs, il y a une croissance et il ne satisfait jamais. Il y a une croissance et il y a toujours un manque qui croit aussi. Et le juste, lui, en arrive à l'équivalence de forme et son désir aussi croit et il continue de travailler, lui aussi. Mais il est récompensé à chaque fois, dit Rav. Et le fait qu'il perd deux fois et qu'il perd deux fois. Qu'il perd et gagne deux fois. Et tu demandes si le désir change, mais bien sûr que le désir il change tout le temps, sans cesse, et de plus en plus. Et alors quoi? Mais pourquoi est-ce que l'héritage c'est la récompense du juste qui est double et le méchant, lui, et pourquoi le juste... Mais à la fois ceci est double et ceci est double, un double gain et une double perte, dit Rav. Ah, pense-y. Je n'ai pas plus de mots ici pour expliquer. Je ne comprends pas pourquoi cette logique n'est pas comprise. Quoi, Vlad? Mais la chose intéressante, ce sont que les justes gagnent double et parce que tu dis que parce qu'ils renversent leur désir de recevoir et oui, ils le remplissent afin de donner qu'ils le remplissent, dit Rav. Et sont-ils récompensés avec l'adhésion au Créateur? Oui. Alors ça veut dire qu'ils gagnent deux fois plus. Oui, mais comment est-ce qu'ils arrivent avec le désir de donner et le désir de recevoir aussi se change en désir de donner? Est-ce qu'ils reçoivent devient afin de donner et tout pour donner au Créateur? Oui, dit Rav. Alors tout leur plaisir vient du Créateur, pour le Créateur? Oui, dit Rav. Et ça, je peux te l'expliquer. Lorsque tu donnes au Créateur, tu as du plaisir et tu es rempli avec ce plaisir et du plaisir que tu remplis le Créateur. Mais comment est-ce que ça ne se transforme pas en désir de recevoir ce plaisir? Mais ça, ça vient de la lumière supérieure qu'on reçoit et qu'on arrange nos kélim d'une telle façon. Et tout ça, ça vient de la lumière. Alors le juste, lui, il hérite et c'est comme le reste des gens qui reçoivent du Créateur. Et oui, dit Rav, alors continuons. Pourquoi est-ce si difficile avec mon désir de recevoir d'en venir à une reconnaissance que je suis dans ce processus aussi lorsque nous faisons de la diffusion et que j'essaie d'expliquer aux gens, il y a toujours de plus en plus une difficulté à comprendre. Le désir de recevoir croît constamment pour nous mener au but de la création, dit Rav. Et il revient à nous de faire la correction, mais le fait que le désir de recevoir ne fait que croître tout le temps, il n'y a pas de question à ce propos. Ça, c'est ce que nous appelons en son temps, béto, qui ne fait que croître et croître. C'est comme une horloge ou un ressort qui ne fait que se déployer et s'élever toujours tout au long de la création. Alors, continuons avec le chapitre 5. La pensée de la création force chaque chose dans la réalité à sortir l'une de l'autre, jusqu'à la réparation finale. 22. Maintenant, on peut comprendre dans une certaine mesure la puissance de la particularité du Créateur, que ses pensées ne sont pas les nôtres, etc. La multiplicité de formes et de concepts que nous percevons dans toute la réalité qui est face à nous, tout cela s'unit chez le Créateur en une seule et même pensée, la pensée de la création qui est de faire plaisir à ses créatures. Cette pensée unique entoure toute la réalité en unité absolue jusqu'à la réparation finale, car elle est là tout le but de la création. Elle est l'opératrice, la force qui agit, car ce qui n'est que pensée chez le Créateur est une loi obligatoire pour les créatures, et du fait qu'il a pensé à nous faire plaisir, il s'est éveillé obligatoirement en nous le désir de recevoir sa bonne abondance. Ceci est l'action, c'est-à-dire qu'après que cette loi du désir de recevoir du plaisir a été implantée en nous, nous sommes maintenant définis comme une action où, à cause de la disparité de forme, nous sommes sortis du Créateur en créature et d'opérateur, nous sommes devenus l'opération.
והיא היגיעה והעבודה שמחמת כוח הפועל בנפעל, כנ"ל, מתגברת והולכת כמות חשק הקבלה.
Ça, c'est l'effort et le travail, car à cause de cette force qui agit comme susmentionné, le désir de recevoir s'accroît en nous suivant la descente des mondes jusqu'au corps séparé dans ce monde-ci, dont la forme est à l'inverse de la vie des vies et qui n'est pas capable de donner à l'extérieur de lui-même ce désir amenant la mort au corps et toutes sortes de tourments et d'efforts à l'âme. C'est cela le travail du Créateur par la Torah et les mitzvot, car à travers l'illumination de la ligne dans la place restreinte se déploient les noms sacrés, la Torah et les mitzvot. Grâce au labeur dans la Torah et les mitzvot, dans l'intention de faire plaisir au Créateur, les récipients de réception se transforment petit à petit en récipients de dons, et c'est toute la récompense que l'on espère recevoir. Car tant que nos récipients de réception ne sont pas corrigés, il nous est impossible d'ouvrir la bouche pour recevoir son abondance, à cause de la peur de la disparité de forme, car celui qui mange ce qui n'est pas à lui a peur de regarder en face. C'est la raison de la première restriction, mais lorsque nous corrigeons nos récipients de réception pour qu'ils soient afin de donner, nous les rendons équivalents au Créateur et nous sommes digne de recevoir son abondance sans fin. Vous pouvez voir que toutes ces formes opposées dans toute cette création devant nous, c'est-à-dire les formes de l'acteur et l'objet de l'action, les formes de corruption et de correction, les formes du travail et de sa récompense, etc., tout cela est inclus dans la seule pensée du Créateur, en toute simplicité, c'est-à-dire de faire plaisir à ses créatures, ni plus ni moins. De même, cette pensée inclut toute la multiplicité des concepts, à la fois les concepts de notre sainte Torah et ceux des enseignements séculiers, laïques, ainsi que toutes les créatures, les mondes et les différentes formes de conduite en chacun, tous proviennent de cette seule pensée, comme je l'expliquerai plus tard. Des questions, demande Rav.
Nous le démarrons à l'autre. Et Ah,
je sais pas quoi trop faire à ce sujet, dit Rav. La pensée de la création. Disons qu'il y a un programme, un plan, une formule, où tout est inscrit. Il n'y a rien qui manque. Parce que chaque personne, nous tous ensemble, suivant cet état, le temps, les actions, peu importe de quoi il s'agit, tout est écrit jusqu'au dernier détail. Il n'y a pas de personne qui ne bouge un doigt en bas sans qu'il y ait une force en haut, un ange qui le batte et pour lui dire de croître. Alors, et c'est impossible de faire autrement. C'est comme ça que nous sommes opérés, parce que nous sommes complètement le désir de recevoir et par conséquent, je suis opéré par la lumière d'une façon nécessaire. Et lorsque j'acquiers le désir de donner, maintenant je suis opéré nécessairement par le désir de donner, mais il est à moi. Et dans la mesure où je fais pour moi-même une similitude avec le Créateur, alors là, je prends sur moi de me gérer moi-même. Alors, premièrement, j'étais à 100% géré d'en haut, et maintenant, je suis 20% où je peux me gérer moi-même, et 80% je suis géré d'en haut. Et c'est comme ça jusqu'à ce que j'avance et que j'avance, et que je sois capable à 100% de me gérer moi-même. Et ça, c'est ce que nous appelons ma mesure de correction, ma mesure d'équivalence avec le Créateur. Et c'est vers ça qu'il nous faut avancer. Il n'y a pas de question à ce propos. Ah, il n'y en a pas. Ben, d'accord. Et alors, cette pensée de la création qui opère sur nous pour nous mener à la correction constamment opère. Il n'y a rien là qui va cesser, qui va changer. Non, rien. Et nous, nous nous déplaçons à l'intérieur de cette pensée et chaque fois, nous faisons ces actions à chaque instant. Ou tandis que quand ça dépend d'une personne à chaque instant, ce qui dépend d'elle, c'est d'utiliser l'opportunité pour attirer à elle une partie de cette gestion. Alors un 20% où là, je ressemblerai au Créateur dans sa gestion et je vais me ressentir au-dessus de la nature. J'aurai une même identification avec lui. Je vais le comprendre parce que je vais opérer comme lui. Je vais voir la création comme si c'était moi qui la contrôlais d'une certaine façon. Et dans la mesure où une personne s'identifie au Créateur, elle acquiert la même vision, la même attitude, la même perception que le Créateur. Alors, comment est-ce que nous pouvons avancer vers cela? C'est lorsque nous pouvons être en ce monde et que nous faisons comme si nous étions déjà dans le monde supérieur. C'est-à-dire que c'est comme si nous étions tous dans le don. Nous voulions tous être en équivalence de forme avec le Créateur. Nous sommes tous en amour, nous, et ainsi de suite. Alors, faisons des exercices pour inviter à partir de cet état corrigé dans lequel nous existons déjà, que nous l'attirions à nous pour avoir le don. Et ça s'appelle la lumière qui corrige. Et par là, nous avançons vers le bon état corrigé. Et c'est ça que nous avons en tout et partout, le résultat qui nous vient de la sagesse de la Kabbale. D'accord? Alors, dépeignons-nous comme déjà corrigés d'une certaine façon. Et par là, nous allons gérer le monde, c'est-à-dire que nous allons donner et nous voulons être corrigés. Alors, nous poursuivons avec l'article 23. Malchut d'Ein Sof infini signifie que Malchut n'est pas la fin. Comment peut-on donner le nom de Malchut à Ein Sof? Car s'il en est ainsi, il doit aussi y avoir là les neuf premières séphirot, etc. Maintenant, il est clair que ce qui est appelé Malchut d'Ein Sof, c'est le désir de recevoir inclus dans la lumière d'Ein Sof. Seulement là, Malchut n'a pas mis de limite ou de fin sur la lumière d'Ein Sof, car elle n'a pas encore découvert le changement d'équivalence de forme qui se trouve dans le désir de recevoir. C'est pourquoi cela s'appelle Ein Sof, c'est-à-dire que Malchut n'y met pas fin, tandis qu'après la restriction, jusque vers le bas, Malchut termine chaque séphira ou partsouf.
שהמלכות אינה עושה שם בחינת סוף וכולי. להפוקי מאחר הצמצום ולמטה, נעשה בכל ספירה ופרצוף בחינת סוף בכוח המלכות.
מובן? לא. נו שוב תקרא מה אני אעשה. אתה קורא ככה שאף אחד לא מבין.
Est-ce que c'est compris? Non? Bon, ben, qu'est-ce que je peux dire? Tu l'as lu d'une telle façon que personne ne comprend. Nous réalisons. Malchut d'Ein Sof signifie que Malchut n'est pas la fin. 23. Comment peut-on donner le nom de Malchut à Ein Sof? Car s'il en est ainsi, il doit aussi y avoir là les neuf premières, séphirot, etc. Maintenant, il est clair que ce qui est appelé Malchut d'Ein Sof, c'est le désir de recevoir inclus dans la lumière d'Ein Sof. Seulement là, Malchut n'a pas mis de limite ou de fin sur la lumière d'Ein Sof, car elle n'a pas encore découvert le changement d'équivalence de forme qui se trouve dans le désir de recevoir. C'est pourquoi cela s'appelle Ein Sof, c'est-à-dire que Malchut n'y met pas fin, ne met pas de frontière, tandis qu'après la restriction jusque vers le bas, Malchut termine chaque séphira ou partsouf.
להפוקי מאחר הצמצום ולמטה, נעשה בכל ספירה ופרצוף בחינת סוף בכוח המלכות.
בקיצור, יש רצון לקבל ואין סוף, אבל הוא לא עושה סוף.
En bref, il y a désir de recevoir dans Ein Sof, mais il n'y a pas de fin à lui. Et par conséquent, c'est appelé Malchut d'Ein Sof. Et c'est toujours une Malchut qui n'a pas de fin. Ça viendra plus tard. Nous passons maintenant au chapitre 6. Il est impossible que le désir de recevoir se dévoile dans une essence, si ce n'est dans quatre prinotes, qui sont le sens des quatre lettres Avaya. 24. Comprenons bien la question de la fin qui réfère à Malchut. Expliquons d'abord ce qu'ont dit les kabbalistes. Il n'y a ni grande ni petite lumière dans les mondes supérieurs ou inférieurs qui ne soit arrangée selon l'ordre du nom à quatre lettres, Avaya. Cela est conforme à la règle qu'il n'y a pas une lumière dans les mondes qui ne soit revêtue dans un récipient. Parce que sinon, il ne serait pas révélé aux inférieurs si ça ne passait pas par ces quatre phases de développement, précise Rav. J'ai déjà expliqué la différence entre Atzmuto, son essence divine, et la lumière qui se propage à partir de lui. Elle n'est due qu'au désir de plaisir inclus dans sa lumière qui se propage, qui est en disparité de forme par rapport à son essence divine qui n'a certainement pas ce désir. Cette lumière qui se propage est définie comme Netzal, émanée, car à cause de cette disparité de forme, la lumière sort de l'émanateur et devient émanée. On explique aussi que le désir de plaisir inclus dans sa lumière est aussi la mesure de la grandeur de cette lumière. Et c'est appelé l'endroit de la lumière qui reçoit l'abondance de l'émanateur, selon la mesure de son désir et son envie de recevoir, ni plus ni moins. On explique aussi que ce sujet du désir de recevoir est la seule nouveauté de la création des mondes, une forme inventée ex nihilo, existence à partir de l'absence, car c'est la seule forme qui ne soit pas incluse dans son essence divine et qui a été inventée instantanément par le Créateur pour la création. C'est le secret de Boré Kochesh. Il crée l'obscurité, car cette forme est la racine de l'obscurité en raison de sa disparité de forme. C'est pourquoi elle est plus obscure que la lumière qui se propage en elle. Ainsi, vous pouvez comprendre que chaque lumière qui se diffuse du Créateur a instantanément deux brinotes. La première est l'essence de la lumière qui se propage avant que se découvre en elle la forme du désir de plaisir. Et le deuxième discernement est après que se découvre en elle la forme du désir de plaisir. Alors elle devient un peu plus dense et obscure à cause de cette disparité de forme. Prina Aleph, la première phase, est la lumière et Prina Bet est le récipient. Donc, chaque lumière qui se propage, il y a quatre brinotes pour impressionner le récipient. Car la forme du désir de recevoir, appelé récipient par rapport à la lumière qui se propage, ne se complète pas d'un seul coup, mais par voie de cause à conséquence. Il y a deux brinotes dans celui qui agit et deux brinotes dans celui qui subit l'action. Elles s'appellent potentiel et action dans celui qui agit et potentiel et action dans celui qui subit l'action. Ce sont les quatre brinotes. Alors, l'opérateur est Prina Aleph et Gimel, et l'opéré est Prinat Bet et Dalet. Il y a des questions? Prina Gimel, le troisième discernement, comment ça se fait dans l'opérateur? Je n'ai pas compris encore une fois. Prina Gimel, la troisième Prina, tu dis que l'opérateur œuvre dans Prina Gimel. Et oui, oui, Dirav. Parce que la lumière opère dans l'opérateur opère dans Aleph et Gimel et l'opéré dans régie dans Bet et Dalet. Alors, il n'y a pas de cli dans Aleph et Gimel. Le cli, généralement parlant, il est dans Dalet, dit Rav, mais il se révèle à la fois dans Bet et Dalet. Dans Prina Gimel, le récipient n'est pas révélé, seulement la lumière. Et certainement que la lumière se révèle dans le cli, mais le cli n'est pas ce qui opère. Aussi, dans Prina Aleph. Ils sont à la fois mâles et bêtes et dalettes sont femelles. Alors, continuons. À propos de la racine, je peux poser une question? Oui, nous avons quelques minutes, alors nous avons le temps, vas-y. Ce soir, nous avons une réunion après le Tish, une réunion des dizaines. Alors, vous allez faire ici? Oui, ici et d'autres personnes un peu ailleurs et il y aura ce rassemblement et il y a un événement que nous avons dans notre dizaine qui se passe pour deux jours et il y a quelque chose qui se passera entre les amis, qui se passe entre tes amis pour savoir comment approcher tout ça. Alors, on ne va pas entrer en détail dans tout, mais tout le monde sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, est-ce qu'on devrait parler des problèmes en détail? Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une attitude? Est-ce qu'il faudrait lire à partir des sources, des textes? De quoi avons-nous besoin? Mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Alors, comment pourrais-je recommander quoi que ce soit? Tu seras ici? Oui, oui, je serai là. D'accord. Merveilleux. Et alors, la suite? Mais c'est comme un conflit entre les amis. C'est très sérieux. Nous voyons que... Alors, vous vous demandez comment le régler? demande Rav. C'est-à-dire que vous essayez et rien ne va. Oui, ça fait à peu près 3 jours que nous travaillons là-dessus et ça ne se termine pas. Alors maintenant, dit Rav, vous voulez que nous passons par tous les thèmes avec notre force et que néanmoins vous puissiez soumettre ces gars pour qu'ils puissent, comment devrais-je le dire, qu'il y ait une certaine des concessions, que vous en arriviez à un point médian, un juste milieu, que ça ne sera pas expliqué dans toutes les dizaines. Doivent-elles entendre tout ça? Doivent-elles s'y incorporer? Doivent-elles demeurer anonymes? Doit-elles y avoir une révélation? Moi, je ne sais pas, et ça dépend des amis. Mais c'est seulement que chacun perçoit la réalité dans sa propre perception. Mais c'est toujours comme ça. Alors, nous en avons parlé beaucoup, et c'est comme s'il n'y avait pas d'entente possible. Vous pouvez en parler d'une façon anonyme, sans dévoiler les noms, demande Rav. Oui, nous voulons en parler de cette façon parce que nous ne voulons pas leur faire de tort. Alors d'accord, vous ne révélez pas leur nom et leur disiez vraiment, oui, nous avons ce problème et c'est pas qu'il nous faut faire quelque chose, une célébration aussi, une certaine performance ou non. Nous voulons simplement régler ces problèmes. Et alors, vous leur en avez parlé ou quoi? Oui, nous leur avons demandé, ils sont d'accord que nous réglions le problème. Mais alors maintenant, clarifier de cette façon, qu'est-ce que tu me demandes maintenant? Mais je te demande la méthode, comment travailler dans le groupe avec la grandeur du Créateur. On ne veut pas causer aucun mal. Et tout d'un coup, là, on voit qu'il y a des gens qui veulent s'en aller, quitter la dizaine. Et ils demandent quelle est une façon utile d'y arriver. Alors, premièrement, vous devez savoir que la dizaine elle-même doit en parler et si tout le monde est d'accord, soit d'une façon anonyme ou qu'ils le font à l'unanimité ou que là, vous le faites d'une façon révélée, il faut être assuré que tout ça, ça va toucher, se répandre vers l'extérieur mais il faut voir que et se demander si ça en vaut la peine, si nous sommes suffisamment forts. Moi, je n'exagère pas. Êtes-vous suffisamment fort pour faire de telles actions? Mais ce n'est pas clair que partager avec le monde, c'est ça qu'il nous faut faire. Mais et le contenu de nos réunions, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces réunions? Et tout le monde est là et là, nous parlons, il y a des problèmes qui se problèment et tout le monde connaît les détails des problèmes. Alors tout le monde dans la dizaine, tu veux dire? Oui, disons, tout le monde qui en discute dans leur dizaine. Alors maintenant, il faut que tu y ailles et que tu discutes et que tu essaies d'en arriver à une entente avec les amis et même de révéler tout ça à l'ensemble de la dizaine ou non. Mais tu les obliges à une certaine façon à s'ouvrir parce que ça cause du mal à la dizaine et la dizaine maintenant ne peut plus avancer. Alors, il vous faut régler le problème, mais seulement d'une façon que ça va se faire par une compréhension et l'entente et non pas par la coercition. Alors, disons que les amis sont prêts à s'ouvrir et à parler du problème, à l'aborder, mais oui, mais je comprends que oui, ça ne peut pas se faire nécessairement avec tout le monde, mais pas devant tout le monde, mais il faut voir que c'est comme ça que nous voyons dans la dizaine, mais qu'est-ce qu'il faut faire au juste? Je ne sais pas. Mais c'est quoi la correction? C'est quoi la bonne façon de le faire? Parce que ça ne cesse d'arriver tout le temps. Alors, c'est quoi la bonne façon de composer avec ça? La correction d'un tel état, c'est de s'élever au-dessus et d'être heureux de voir que ces problèmes viennent à nous et d'être heureux de voir que nous pouvons nous élever au-dessus, même s'il semble que ça nous dérange beaucoup. Mais il nous dérange pour que nous puissions nous élever au-dessus. Oui, mais ça, c'est l'atmosphère générale dans la dizaine. Les amis aussi doivent en arriver à cela. Mais certainement, toute la dizaine doit en arriver à un tel état. Et avec l'intégration entre vous, vous allez en venir à un état que ce qui arrive entre 2 personnes dans le groupe arrive entre tout le monde dans le groupe. Et vous devez ressentir que ça arrive entre tout le monde et aussi entre vous et moi et entre vous et lui et entre chacun d'entre vous. Alors disons qu'il y a une dispute et il y a un ami qui veut faire les choses de cette façon et l'autre ami doit faire les choses d'une autre façon. Est-ce qu'on doit arriver à une entente, évaluer tout ça? Comment on y arrive? Est-ce qu'il faut s'élever au-dessus de tout ça? Ce n'est pas clair. S'élever au-dessus, ça ne veut pas dire que vous le laissez là et que vous n'y touchez pas. Non, mais que vous apprenez comment vous mettre au-dessus dans une entente générale, que vous allez comprendre que c'est comme ça qu'est l'État, et ça, c'est ce qui est préférable. Mais d'être au-dessus, ça ne veut pas dire que vous mettez le problème de côté. Non. Simplement, il vous faut en venir à un état comme nous l'apprenons maintenant, c'est où tout vient d'en haut et que ça cascade à partir d'en haut et que le Créateur est celui qui fait cette querelle entre nous et nous devons embrasser ce bâton, cette dispute entre nous, qu'il met entre nous, et nous devons en venir à un état où c'est bon pour nous de, même si il y a toutes ces querelles, ces problèmes et que nous les aimons et que nous aimons nous élever au-dessus de ces problèmes parce que grâce à eux, nous pouvons en fait avoir une ascension et une connexion entre nous. Et l'amour va couvrir toutes les transgressions. Et alors, les transgressions vont demeurer, mais l'amour, néanmoins, va être défini au-dessus d'elles. Et il nous faut construire d'une telle façon qu'il y a toujours une entente. Et là, à la fin, à la fois, les problèmes vont demeurer et nous serons au-dessus, rien ne disparaît, et nous comprenons que ça vient du Créateur, à la fois les problèmes eux-mêmes et la correction vient du Créateur. Et nous, nous sommes adhérés spécialement entre les deux à lui, parce qu'il a tout fait exprès. Alors, essayez. Je pense que le temps est venu de faire un l'chaim.